sait-on ce qui se cache derrière cette petite phrase que nous prononçons de nombreuses fois dans une journée? Quelle heure est-il?
Au quatrième top, il sera exactement...
midi et des poussières. Midi et des poussières.
Un rendez-vous presque quotidien sur Radio Barthas.
Des invités, des reportages, des chroniques, de la musique. Une heure d'émission pour raconter ce qu'il se passe ici et un peu plus loin.
Midi et des poussières.
En réalité, pour être tout à fait précis, actuellement c'est le temps atomique, moins 10 secondes, plus une heure.
Bonjour à toutes et à tous, voilà, il est midi et des poussières sur Radio Barthas. Désolée, j'ai pas encore complètement retrouvé ma voix, mais vous êtes bien sur le 107 de la bande FM ou peut-être nous écoutez-vous sur les internets radiobarthas.net. Merci en tout cas d'être là pour ce rendez-vous radiophonique qui donne la parole à toutes celles et ceux qui ont des choses à dire, des infos à partager, des événements auxquels nous inviter, des histoires à raconter. Et justement, raconter des histoires, c'est ce que propose l'association La Malle, qui est allée à la rencontre des élèves de la seconde option art du lycée Chaptal de Mende et de leur professeur d'art Margot Guiton. Ensemble, ils ont travaillé à mettre en récit des parcours de migration à partir de témoignages récoltés auprès de personnes impactées de près ou de loin par un exil, une migration, un déplacement subi ou choisi. Ils en ont conçu une exposition qui s'appelle Habiter le mouvement, qui donne à voir et à entendre ces récits. Alors le vernissage aura lieu ce vendredi de 16h à 18h en salle d'exposition du lycée Chaptal, avenue Paul Daudet, à Mende donc, et l'exposition sera ensuite à visiter jusqu'au 8 mai. C'est un très chouette projet et pour vous donner envie d'aller découvrir ce que les élèves ont fait, j'ai échangé avec Charlotte Watson qui a proposé et animé les activités et elle commence par nous présenter les missions de son association La Malle.
C'est une asso qui s'inscrit dans le mouvement d'éducation populaire et qui propose des projets qui tendent à sensibiliser, éduquer autour de thématiques sociales, écologiques, et aussi à proposer des pratiques artistiques collectives et participatives. L'idée étant de mélanger les deux pour pouvoir faire des ateliers qui sont à la fois ludiques, créatifs, qui développent le pouvoir de l'imaginaire, tout en étant connectés à des sujets qui nous paraissent importants. L'élément essentiel de l'association, dans les sujets, ou en tout cas dans la manière de faire les parcours pédagogiques, c'est d'utiliser la narration, c'est-à-dire raconter des histoires. Et donc ça peut prendre plusieurs formes, que ce soit l'écrit, le sonore, que ce soit le documentaire, la fiction sonore, que ce soit aussi par peut-être le théâtre. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de partir de cette envie de raconter des histoires et de déployer les imaginaires et peut-être de aussi par là même créer des nouvelles utopies et des nouvelles manières d'habiter cette terre. Alors le projet mené au lycée Chaptal s'appelle Habiter le mouvement, des histoires de migration humaine. Et l'idée, c'est que les élèves ont été invités à aller récolter des témoignages autour d'eux, ou en tout cas au moins un témoignage, chacun chacune, auprès d'une personne qui a migré ou qui a dans sa mémoire familiale une personne, le souvenir d'une personne qui a migré. Et l'idée, c'était de revenir avec ce témoignage en atelier pour qu'on puisse travailler la narration de cette histoire. C'est-à-dire comment on fait récit à partir de témoignages qui peuvent être bruts, qui peuvent être truffés de trous, aussi d'assez peu d'éléments et comment à partir de là on va tisser des histoires que l'on a ensuite mis en récit sonore. Et donc l'idée de ce projet c'était vraiment au travers de ces histoires qu'on récolte autour de nos familles, de nos proches, c'est de se rendre compte que en fait on a tous et toutes des histoires de migration dans nos familles et dans notre entourage, et donc que la migration humaine n'est pas, en tout cas c'est le point de vue évidemment de notre association, n'est pas ce péril qui semble être le discours médiatique et politique parti pris par certaines personnes et puissances politiques et qui aujourd'hui constitue à mon sens une menace pour la démocratie. On a eu donc plusieurs témoignages qui sont revenus, mais après les élèves ont dû choisir 4 récits sachant que les autres histoires, les autres témoignages ont été quand même mis en valeur pour l'exposition, puisque les élèves en parallèle travaillaient la matière visuelle et plastique avec leur professeur d'art plastique pour continuer à faire résonner ces histoires d'une manière créative et artistique. Mais en tout cas, sur la partie réalisation des histoires et comment on va imaginer en faire une histoire sonore, c'est quatre histoires qui ont été sélectionnées. Et parmi celles-là, il y en a notamment une qui parle d'une migration qui est temporaire, qui parle plutôt d'une histoire d'expatriés, donc des Français qui vont vivre dans un autre pays. Et donc c'était intéressant aussi de mettre ça en lumière, de montrer aussi que les migrations peuvent être de ce type-là, pour questionner aussi pourquoi certaines personnes voient leur migration valorisée, tandis que d'autres voient leur migration plutôt mal vue, ou en tout cas critiquée, quoi.
Et est-ce que les élèves, comment est-ce qu'ils ont réagi ? Est-ce que de mener ces enquêtes, ces interviews, récolter ces histoires, ça leur a appris des choses ou ça a un peu changé le regard qu'ils pouvaient porter sur la question des migrations ?
Ça a été pour certains élèves des révélations d'histoire familiale. Ça a créé de l'émerveillement en fait chez certains élèves. Et là, à la fin du projet, on a eu des retours aussi sensibles, émotionnels, de se mettre à la place en fait de ces personnages qui ont été déracinés, qui ont dû retrouver leur repère ailleurs et de s'identifier à eux.
Merci beaucoup Charlotte Watson pour cette première immersion dans le projet Habiter le Mouvement, projet qui a reçu le soutien de la région Occitanie. Et j'annonce déjà que dans la foulée de l'exposition au lycée Chaptal de Mende, on donnera nous aussi à entendre sur Radio Bartas les récits sonores produits par les élèves. Restez bien à l'écoute du 107 et vous en saurez plus très bientôt.
Midi et des poussières.
Midi et des poussières. Un rendez-vous presque quotidien sur Radio Bartas.
Et oui, il est toujours midi et des poussières sur Radio Bartas. L'heure maintenant d'aller faire un tour du côté du festival Vue du Québec qui a pris possession de la ville de Florac depuis hier. Peut-être reconnaîtrez-vous la musique de la bande-annonce officielle de la 17e édition du festival, musique composée par Sonia Pinchot, musicienne québécoise des îles de la Madeleine, l'un des territoires à l'honneur du festival cette année aux côtés de la Gaspésie. Oui, on vous parle beaucoup de ce festival sur cette antenne, car c'est quand même un événement exceptionnel. Voir Florac devenir québécoise, c'est très réjouissant et la programmation est vraiment riche, sans films, plein d'invités, tellement de choses à dire et on ne peut pas tout dire. D'ailleurs, il a fallu faire des choix. Et pour aujourd'hui, j'ai choisi d'aller à la rencontre du réalisateur et de la productrice du film Capitaine. Alors le film, il a été diffusé hier soir, c'était le film d'ouverture du festival, mais même si vous ne l'avez pas vu, pardon, je pense que les propos qui vont suivre vont quand même vous intéresser, car au-delà du film, du résultat, de l'objet de cinéma qui est montré aux spectateurs, qu'on ait beaucoup aimé le film ou moins, ce qui est très important dans ce projet-là, c'est la façon dont il a été pensé et fabriqué, et c'est aussi les jalons qu'il pose, le symbole qu'il représente, car Capitaine est le premier long-métrage de fiction où la langue inoue est majoritaire. Je vous propose donc d'écouter le réalisateur et la productrice du film nous en parler.
Bonjour, mon nom est William Mazzolini-Valin. Je suis réalisateur et co-scénariste du film Capitaine. Et je suis de la nation Innu. Mais on a tourné le film dans une communauté Innu. Mais c'est la grande famille. C'est la même chose, juste une différente façon de prononcer les mots.
Tu es prête? Je vais te faire ça en Abénaki. Je vais te le faire en français après. Tu essaieras de le faire en Abénaki après. Quoi, Imzewin, d'Alewazé, Julie Obamsawin, dans le nom basquois, au Danak. Bonjour, je m'appelle Julie Obomsawin, je suis membre de la Nation Abénakis d'Odanak et j'ai produit le film Capitaine.
Merci beaucoup à tous les deux d'être avec moi. Donc on est là dans les locaux de la Nouvelle Dimension à Florac. Alors William, je vais commencer avec quelques questions pour toi. J'ai pas encore complètement retrouvé ma voix. Capitaine, c'est donc ton premier long métrage de fiction. Avant ça, tu as réalisé plusieurs courts, notamment un qui a été assez remarqué qui s'appelle Powo, qui est un récit d'inspiration autobiographique, tu me corrigeras si je me trompe, qui mettait en scène un adolescent métis qui se retrouve en perte de repères suite au suicide de son père et qui va tout faire pour renier ses origines autochtones. Alors clairement, on voit aujourd'hui qu'avec ton premier long métrage qui met en scène des personnages autochtones, une histoire autochtone, un territoire autochtone, en langue autochtone, finalement, t'as pas tout renié.
Non, j'ai pas tout renié. Quand j'ai débuté avec le court-métrage Power en 2017, j'avais un souhait, c'était de redonner à la jeunesse une fierté d'être soi-même, de ne plus avoir aucune gêne de se montrer d'où on vient, de quelle langue on parle. Parce que je l'ai trop vu dans ma jeunesse. J'ai trop vu d'enfants, d'ados être un peu à l'écart parce qu'ils étaient autochtones. Alors, quand j'ai décidé de faire Power, c'est aussi par rapport à un sujet qui est très d'actualité encore malheureusement dans les communautés autochtones, par rapport au suicide dans les communautés autochtones. J'ai voulu un peu lancer un message d'espoir aux jeunes pour... leur dire que parfois ce nuage noir-là, il peut sembler très pesant, très, très lourd à porter, mais qu'au final, si on va chercher de l'aide, si on s'entoure de gens, si on parle, ce nuage-là finit par passer. Puis après ça, le processus, c'est comme quand j'ai découvert le scénario Capitaine, c'est une idée originale de Sly, Sylvain Raymond, co-scénariste, je lui ai proposé de co-écrire et aussi d'une autre façon de contribuer encore une fois à mettre une figure de positive à l'écran sous un rang de capitaine pour que les jeunes se rattachent aussi à un personnage qui parle leur langue, qui est au grand écran, puis pour inspirer un peu justement la fierté. D'être nous. Avec Capitaine, c'était pas une histoire personnelle, c'était une façon de raconter ce que beaucoup d'Autochtones, et je dirais même des milliers d'Autochtones, ont vécu à travers le Canada et aussi à travers les États-Unis.
Et c'est donc le premier long métrage de fiction au Québec où la langue Innu-Aimun, comme ça qu'on prononce.
L'Innu-Aimun
est la langue majoritaire, avec l'anglais qui est la seconde langue du film. Alors, pour vous, cette dimension linguistique, pourquoi est-ce que c'était si important?
Parce que, dans le fond, on est habitué d'entendre... on écoute des films dans plusieurs autres langues. Alors, pourquoi pas les Noémons? C'est tout simple.
Juste un petit devoir de mémoire, je pense que c'est important de dire qu'avant 1951, au Canada, 1951, c'est interdit, selon la loi, de faire toute démonstration liée aux cultures autochtones. Parler la langue faisait partie de cette interdiction-là. Donc, il y a quelque chose d'aussi très politique et il y a quelque chose de très identitaire à parler une langue autochtone. Donc, il y avait aussi toute cette dimension-là qui était excessivement importante dans Capitaine. Moi, je produis, ça fait la boîte plus de 10 ans maintenant, la boîte Kasewe Media, qui veut dire ensemble en Abénaki. Et c'était essentiel pour moi de réussir à faire un projet au début, quand j'ai ouvert, qui serait principalement en langue autochtone. Ça m'aura pris 10 ans, mais je suis très fière de ça parce que c'est un pan culturel qui est tellement important. Moi, je viens de la nation Abénakis, et les Abénakis, il y a très peu de locuteurs vivants. Donc, on essaie, on réapprend les langues, mais il y a quelque chose de très important dans le fait d'entendre les langues autochtones pour aussi les revitaliser et faire en sorte que les jeunes vont avoir envie de les écouter. Le fait de pouvoir se reconnaître et de voir une langue autochtone à l'écran, je pense que ça a aussi une fonction auprès des jeunes. Ça peut aussi leur donner l'impression que cette langue-là, elle existe et qu'elle fait partie de l'histoire, elle fait partie de ce que c'est vivre au Canada, par exemple, et que ça peut voyager partout à travers le monde. Donc, pour moi, à titre de productrice, c'était ça qui était important dans le fait de porter cette histoire-là à l'écran avec une langue principale qui est l'Innu.
Comment expliquer que ça n'ait pas été fait plus tôt? Parce que tu évoques la date de 1951, mais depuis, comment ça se fait que ce soit le premier long métrage où la langue inoue est majoritaire? Pourquoi ça a pas... enfin, pourquoi maintenant?
Je pense qu'on est arrivé à un moment où les gens sont plus ouverts sur ce qu'ils ne connaissent pas. Et il y a un espace qu'on a qui est plus grand que ce qu'on a eu, par exemple, même il y a 10 ans. Moi, je suis née dans la fin des années 70, quand j'étais petite puis que j'écoutais la télé. Jamais je me reconnaissais à l'écran. Donc, je pense que c'est important de vivre dans une société dans laquelle on représente toutes les identités parce que tout le monde a sa place. Et si on se reconnaît à l'écran, bien, ça a un poids énorme sur se projeter. Alors, je pense que il y a eu avec... Je ne sais pas si vous en avez entendu parler ici, mais il y a eu, dans les dernières années, beaucoup d'anciens cimetières sur les pensionnats autochtones qui ont été découverts, puis c'était des fosses communes, en fait. Et ils ont retrouvé des enfants, et ça a tellement choqué la population quand c'est sorti. Puis là, on est rendu à des milliers d'enfants qu'on a déterrés. Bien, c'est comme si ça a créé une situation où les gens ne pouvaient plus se faire à croire que ça n'a pas existé ou que ça appartenait au passé. Il faut aussi voir qu'on traîne cette histoire-là, elle fait partie de nous. Puis de reconnaître ça, je pense que c'est juste une manière d'ouvrir le dialogue. Puis ce film-là, c'est aussi une manière de nourrir ce dialogue-là.
Oui, puis tu sais, le fait d'avoir un film en langue autochtone, en Innu, ça donne aussi aux jeunes cette vision-là que c'est possible de faire des films en Innu. Et ça, je pense que c'est vraiment important parce que c'est la langue maîtresse, c'est la langue maternelle, c'est la langue du territoire, il y a beaucoup de poésie là-dedans. Puis jusqu'à récemment, on pensait que ça allait être une langue qui allait disparaître parce que justement, ça a été écarté, ça a été banni, ça a été on a empêché les Autochtones de parler leur langue. Fait que là, d'avoir ça à l'écran, ben c'est sûr que c'est d'abord et avant tout pour la prochaine génération.
Oui, j'ai lu un article publié sur le site de Radio-Canada qui date de l'année dernière qui indiquait que seuls 13% des Autochtones parleraient leur langue suffisamment bien pour soutenir une conversation et que le nombre de locuteurs dans les 70 langues autochtones au Canada est un peu en chute libre. Donc c'est aussi ça, de faire face à cette urgence, de pallier à cette urgence en fait pour, entre guillemets, sauver la langue et la garder vivante.
Oui, vraiment. Tu sais, jusqu'à vraiment récemment, il y avait pratiquement juste les aînés qui détenaient encore la langue. Maintenant, il y a eu quand même beaucoup d'efforts. Les choses bougent vers le positif. Il faut quand même le nommer. Je sais qu'à Maliotenam, Wahat Mak Maliotenam, la communauté Innu, où est-ce qu'on a tourné le film Capitaine? Les jeunes ont comme une heure par semaine d'enseignement de la langue. Mais c'est ça, c'est enseigné, mais c'est aussi demander à des jeunes d'apprendre le français, de se débrouiller en anglais, puis aussi de continuer à parler leur langue maternelle. C'est que c'est beaucoup quand même pour un jeune. Mais les efforts continuent, puis c'est ça. Je trouve ça très positif d'avoir un film comme Capitaine qui est sorti en salle, qui parcourt les festivals, qui est ici en France. Donc, l'Innu Emun aura traversé l'océan Atlantique.
Et c'est un film aussi grand public. Je crois que c'était important pour toi aussi de faire. C'est un thriller. C'est un film qui est aussi un film de divertissement, on pourrait dire.
Ben, on avait aussi le souhait qu'à la maison, devant le choix des films au cinéma, qu'une personne puisse se dire « Ah, je vais pas juste aller m'informer ou ce soir, je fais un devoir de citoyen, je vais aller regarder un contenu autochtone pour en savoir plus. » D'abord et avant tout, c'était d'accrocher les gens par une bonne histoire, par des codes aussi qui peut-être sont plus familiers avec l'action, les codes du suspense... Fait qu'il y avait tout ça derrière Capitaine aussi pour justement pour aller juste éveiller une petite curiosité du côté du public, puis qu'après ça, ben aussi leur faire passer un bon moment au cinéma.
Et sur la question de la langue, comment est-ce que vous avez travaillé? Parce que j'ai lu donc qu'il y a une gardienne de la langue Innu qui était présente tout au long du tournage et qui vous a guidé pour être sûr de la justesse de la langue. Parce que les comédiens, est-ce qu'ils la maîtrisaient? Comment est-ce que ça s'est fait?
Mais en fait, quand on porte à l'écran une langue autochtone, c'est important de travailler avec la communauté, puis de déterminer ensemble qui aura ce travail-là, qui aura cette tâche-là de garder la langue, d'être le bon protecteur de la langue, comme on va dire. Moi, je suis pas de la nation Innu, alors c'était important pour moi aussi d'établir une relation de confiance avec la communauté puis de leur expliquer qu'on allait travailler dans des paramètres qui allaient nous assurer que ce qu'on portait à l'écran, c'était juste puis que la langue, elle allait être juste, pas juste... On voulait pas seulement faire l'effort de le faire, on voulait bien le faire. Et c'est important, donc, d'avoir cette personne-là qui est devenue, autant en préparation que sur le tournage, qu'en post-production, un poste clé là, pour nous. Sans elle, on n'aurait pas réussi à monter. Il y a des changements qu'elle nous a demandés. En tournage, il y a des prises auxquelles Will tenait, mais que ce n'était pas possible parce que la langue n'était pas juste. Donc, c'est des choses qui sont vraiment importantes. Donc, c'est devenu vraiment un membre très rapproché de la réalisation pour nous permettre de préparer les comédiens de manière différente. Je vais vous expliquer ça dans quelques instants. Et aussi de s'assurer que ce qu'on allait porter à l'écran, c'était juste. Ça, c'est la première étape. Donc, on l'a choisi, cette personne-là, avec le conseil de bande qui était, dans le fond, le conseil qui représentait les communautés de Wahat, Mac, Maliutenam, où on a tourné principalement le film. Et ce qui est important aussi de dire, c'est que le personnage de capitaine, donc Wayne, ne parlait pas l'innu. Et celle qui joue sa fille, Kenzie, ne parlait pas non plus l'innu. Ce n'est pas leur nation. Ils ne sont pas de la nation l'innu. Donc, c'est important d'accompagner cet apprentissage-là de quelqu'un qui était, dans le fond, qui agissait à titre de coach d'innu pour vraiment, au niveau de la prononciation, bien travailler. Puis, il y a quelque chose auquel on ne pense pas, mais eux, ce sont des anglophones. Ils ne parlent pas en français. Donc, il fallait faire une écriture phonétique de la langue pour s'assurer que ça puisse être compris et adéquat à l'écran. Donc, ça demandait une certaine gymnastique. Et sur le plateau, donc, à toutes les fois qu'on tournait, après une prise, William disait si la prise lui convenait. Puis ensuite, la deuxième personne qui parlait, c'était la gardienne de la langue qui nous disait si c'était possible ou pas d'utiliser cette prise-là, si c'était adéquat d'utiliser cette prise-là. Donc, ça demandait une gymnastique de plateau qui s'est adaptée à la réalité de ce qu'on portait à l'écran, qui était la langue. Donc, ça a fait un plateau en trois langues, parce que pour que la coach d'innu qui parlait en français en innu puisse parler avec Wayne qui parlait en anglais, ça prenait un traducteur. Donc, il y avait toute une dynamique là, qui s'est mise en place. Mais donc, tout est faisable. Quand on veut faire quelque chose, puis que ça fait partie... C'est le noyau dur d'un projet. Il faut bien s'entourer, il faut choisir les bonnes personnes, puis il faut établir une gymnastique autour. Puis je pense que quand on le fait, on arrive à porter à l'écran un film où la langue principale, c'est l'innu. Puis moi, je suis très fière de ça. Moi, j'étais en réapprentissage de ma langue, qui est la Benaki. Je ne l'ai pas entendu parler à la maison quand j'étais petite parce que les gens n'avaient pas le droit. Donc, il y a beaucoup de travail à faire pour apprendre une langue autochtone. Il n'y a pas d'origine latine dans ces mots-là. Donc, c'est complètement autre chose. Donc, ça prend beaucoup de travail. Puis on l'a fait. Puis je suis très, très fière de ce qu'on a fait.
Peut-être que c'est une question bête que je vais poser, mais pourquoi ne pas avoir casté des comédiens dont la langue maternelle était l'innu, ou dont la langue, en tout cas, sinon maternelle, du moins, qui étaient des locuteurs innu?
Il faut savoir qu'il y a un très petit bassin de comédiens au Québec, que ce soit de la nation innu ou autre. Bon, il y a 11 nations... Ça fait pas longtemps, je fais encore un petit retour en arrière, là, le dernier pensionnat au Canada, fermé en 96, ça fait pas longtemps. Hein? Alors, on est en train de former la relève autant en avant que derrière la caméra, puis donc le bassin est petit. Puis ce qu'on voulait, c'est trouver la bonne personne pour pouvoir nous faire vibrer à tout chaque rôle qui est important. Donc pour nous, c'était important que chaque personne qui jouait un rôle autochtone soit autochtone. Pour nous, c'était essentiel. On n'aurait pas pu faire un projet autrement. Cependant, je pense que c'est intéressant de pouvoir s'ouvrir un peu le bassin pour réussir à aller chercher des personnes qui sont aussi autochtones, mais ailleurs au Canada, pour porter ensemble tout ça et faire en sorte que ça soit crédible et que ça touche le public le plus possible.
Merci beaucoup.
Merci à toi.
Olé, onné!
C'est à l'instant Kimatsi Lunga de Elisapi, musicienne Inuk, grande défenseuse, promotrice, ambassadrice, elle aussi des cultures autochtones du Canada, qui chante dans sa langue l'Inuktitut. Inuktitut, c'est aussi le nom de son 4e album solo sorti en 2023, un album de reprises de chansons de Led Zeppelin, Pink Floyd, Blondie ou encore Queen, comme avec ce titre qu'on vient d'entendre, reprise de, vous l'aurez reconnu, I Want to Break Free. Son label Bon Sound explique que Elisapi a un jour réalisé à quel point les mélodies de ses tubes avaient été un refuge pour elle, mais aussi pour son entourage, ses tantes, ses oncles, ses cousins, ses parents, sa communauté. Ses chansons étaient une échappatoire dans un contexte où les repères culturels et communautaires s'effaçaient face à la colonisation. Elle a donc travaillé à se remémorer ses chansons, celles qu'elle associe à ses proches, à des moments chargés d'émotions qu'elle a vécues. Et elle a aussi beaucoup travaillé à obtenir l'autorisation des artistes originaux pour pouvoir les traduire et les adapter dans sa langue, l'Inuktitut. Donc, la musique ici, comme le cinéma, se fait le porte-voix de la langue, la célèbre, la partage et œuvre ainsi à la maintenir bien vivante.
Midi et des poussières.
Et vous allez peut-être vous dire que décidément, on parle trop de cinéma dans cette émission. C'est vrai que j'ai peut-être un petit biais, j'avoue. Mais bon, aujourd'hui, c'est aussi que nous sommes mercredi. Et le mercredi, c'est le jour de la chronique Parlons Ciné avec Cinéco. Et ça, c'est sacré.
Parlons Ciné
avec Cinéco.
La rubrique cinéma de Cinéco.
L'association de cinéma itinérant en Cévennes sur Radio Bartas.
Et aujourd'hui, c'est toi, David, pour la rubrique Parlons Ciné avec Cinéco. Bonjour.
Bonjour, Raphaël. Bonjour à toutes et tous.
Alors, bah, je te laisse nous annoncer de quel film tu vas nous parler aujourd'hui.
Alors, une fois n'est pas coutume, nous allons parler d'un film jeune public, un film d'animation. C'est le dernier Disney, c'est le Disney Noël qui est sorti au mois de novembre dernier. C'est Zootopie 2 de Byron Howard et Jared Bush. Alors, voilà, comme son nom l'indique, c'est la suite du premier épisode qui est sorti il y a maintenant déjà 10 ans et qui avait obtenu l'Oscar du meilleur film d'animation. Et dans ce nouvel opus, on retrouve les deux héros, Judy Hopps, la lapine policière, et Nick Wilde, le renard rusé qui essaye de faire sa loi. Donc les personnages que vous avez eu plaisir à voir dans le premier épisode, vous les retrouvez ici. Ces deux héros n'étaient pas forcément tenus à se rencontrer et à résoudre des énigmes et des enquêtes ensemble, mais les voilà dans une nouvelle aventure et ils se rendent compte que leur couple, il est pas complètement soudé. Donc au travers d'une nouvelle affaire qui va arriver avec l'arrivée d'un nouveau personnage qui va mettre le tout trouble sur Zootopie, ils vont se rendre compte qu'ils font vraiment vraiment la paire. Dans ce film, vraiment il y a beaucoup de points forts, hein. Le rythme est soutenu, l'intrigue vous tient en haleine, en scène d'action il y en a beaucoup, elles sont vraiment très belles, elles sont assez époustouflantes, avec de nombreuses courses-poursuites, que ça soit en voiture, avec des cascades, une course-poursuite dans un tube aquatique. Donc ça, c'est le côté vraiment qui va plaire aux plus jeunes, aux enfants. Par contre, les adultes, eux, ne sont pas oubliés du tout, puisqu'il y a pas mal de jeux de mots, de clins d'œil à la culture populaire, de références au cinéma. Donc vraiment, tout le monde va en avoir pour son compte sur ce nouvel épisode. C'est un film qui est ambitieux par le nombre de personnages, puisqu'il y a 178 personnages. Rappelons quand même que le principe est gardé, c'est-à-dire que c'est un monde créé par les animaux pour les animaux, donc tout est anthropisé. Mais ça, voilà, les réalisateurs jouent avec ce concept-là et ils s'amusent, et puis nous aussi. Donc beaucoup de personnages, beaucoup de décors. Il y a une certaine complexité, mais qui en fait aussi la force du film. Les réalisateurs ont réuni une équipe. Alors je m'excuse, j'ai pas noté le chiffre, mais je crois qu'ils étaient à peu près 650 personnes à travailler sur le film pendant de très nombreuses années. Ils ont créé des nouveaux environnements, avec des environnements semi-aquatiques, c'est plutôt les animaux qui sont semi-aquatiques, comme les morses, les otaries, les phoques. Et puis, vous allez retrouver aussi les anciens quartiers de la ville, de Zootopie, comme la place du Sahara, Tundraville, le quartier de la forêt tropicale, Limpaville, etc., etc. Je voulais aussi mettre en valeur la musique. Alors, chez les Disney, il n'y a pas trop de chansons dans celle-là. Il y en a quand même une, qui est interprétée par Shakira, qui s'appelle Zoo, que vous entendez peut-être sur d'autres ondes. Mais en tout cas, dans ce film-là, voilà, Shakira, c'est la gazelle. Elle était déjà, ce personnage était déjà présent dans le premier épisode. Shakira donnait également sa voix. Et ici, cette scène-là, voilà, c'est un show à l'américaine. Et Shakira, on la reconnaît aux premières notes. Et ça marche très, très bien. Pour terminer, je vais simplement parler aussi de la morale et de ce qu'ont voulu traiter les réalisateurs, pour dire que le avant tout, ils ont voulu parler de la façon dont nos différences nous rendent plus forts à travers le prisme de ces partenaires qui sont un peu improbables, mais réussis.
Une morale à la Disney. tout finit bien, j'imagine.
Tout finit bien.
Sans vouloir spoiler. Merci beaucoup, David.
Merci, Raphaël.
Et donc, pour voir Zootopie en Cévennes, voilà quelques séances qui arrivent d'ici la fin de semaine prochaine à Saint-Martin-de-Lensuscle. Ce sera le samedi 25 avril à 18h, à Sainte-Croix-Vallée-Française le dimanche 26 avril à 18h, à Florac la semaine d'après, mercredi 29 avril à 18h, Saint-Enimi le lendemain jeudi 30 à 17h, et Vébron dimanche 3 mai à 17h30. Et évidemment, toutes les horaires sont à retrouver sur le site de Cinéco, ou sur la page internet de la rubrique Parlons Ciné avec Cinéco sur le site de Radio Bartas. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. On se retrouve demain, même heure, midi et des poussières précises pour le prochain épisode. Salut!
Sait-on ce qui se cache derrière cette petite phrase que nous prononçons de nombreuses fois dans une journée ? Quelle heure est-il ?
Au quatrième top, il sera exactement...
midi
et des poussières. Midi et des poussières.
Un rendez-vous presque quotidien sur Radio Bartas.
Des invités, des reportages, des chroniques, de la musique. Une heure d'émission pour raconter ce qu'il se passe ici et un peu plus loin.
Midi et des poussières.
En réalité, pour être tout à fait précis, actuellement, c'est le temps atomique, moins 10 secondes, plus une heure.